Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles ? Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Bonjour, chère auditrice. Bonjour, cher auditeur. Ah, on était dans les feuilletons avec la saga. Enfin, non, pas la saga, la véritable saga d'Éric Le Rouge. Et on va continuer dans le feuilleton avec On descend tous de nos ancêtres. Ah bah oui, ah bah ça, il n'y a pas photo, hein. On descend tous de nos ancêtres. Mais moi-même, personnellement, figurez-vous que c'est un peu particulier au niveau de mes ancêtres. Voilà, c'est à savoir, et puis c'est vrai tout ça, c'est à savoir que mon grand-père paternel a été trouvé sur les marches d'une église. Ce qui fait que pour descendre de mes ancêtres, j'ai un peu de mal, à part descendre les marches de l'église, mais ouais, j'ai un peu de mal. Et puis, ah voilà, c'est un feuilleton avec des épisodes, plein d'épisodes, je sais pas combien, vous allez voir. C'est un feuilleton que j'ai écrit il y a quelques années maintenant. C'est d'ailleurs, il y a un bouquin qui est paru en 2004. Oh bah, ça a été tiré à 300 exemplaires, ça n'a pas fait le prix Goncourt, hein, on peut pas dire. Non. Je l'ai écrit de la même façon que la véritable saga d'Éric Le Rouge pour mon ami Bernard Pochet, parce que c'est toujours cette période où on était pas bien tous les deux, on était... c'est pas qu'on n'était pas bien entre nous, non, on n'était pas bien dans notre tête, ni moi, ni lui, à tel point que on en était à commencer la journée avec un café pastis, c'est vous dire, pour commencer la journée, c'est pas mal. Après, on continuait avec le pastis sans café. Après, on entamait le rosé. Après, on entamait un petit blanc, quelques petits rouges, et puis tout allait bien. Mais entendons Bernard, parce que c'est intéressant pour descendre de nos ancêtres de connaître l'histoire de Dieu.
Ça a commencé comme ça. On s'est dit Dieu n'existait pas. Est-ce un cauchemar ou un rêve? Un petit hominidé gracile, qu'avait rien ni d'Adam ni d'Ève, l'enfant de tout Maï et Lucie. Peuplait la corne de l'Afrique, notre berceau ethnologique. Il fallut mille et mille lunes pour que le soleil et le vent copulaient avec les nuages pour engendrer les pluies d'orage, irriguer les rides des dunes, créer forêts, vallées, rivières. L'homme alors rassuré dit « Je vais travailler, je vais travailler, couper, tailler, débiter, creuser le bois, l'eau, c'est la pierre. » Fabriquer des outils, des ustensiles utiles, et j'irai jusqu'au delta du Nil. Ça a commencé comme ça. On sait que Dieu n'existe pas. Et alors d'exil en exode, de Périgord en Sibérie, le fils de Toumaï et Lucie connut la vie précaire du paléolithique. Les gens n'y vivaient guère que le temps d'un éclair, à faire quelques enfants bâclés sur un sourbier du musée de misère. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, et Dieu n'existait toujours pas. Le soleil réchauffa la calotte glaciaire. L'hiver de mauvais gré abandonna la moitié des saisons au printemps et à l'été. L'ours blanc, le lion géant, le mammouth titanesque, des fresques de Lascaux firent place aux troupeaux de chèvres et de moutons. Et puis rapidement vint le temps de la haine, pour un gué de rivière, une forêt de châtaignes, une source, une vaste et paisible clairière. L'homme alors inquiet dit: je vais faire la guerre, je vais faire la guerre. Couper, tailler, débiter, creuser le bois, l'eau, c'est la pierre. Fabriquer des armes, des ustensiles utiles pour tuer tous les inutiles. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, et l'embryon de Dieu bougea. La flèche de Silex perfora les cortex. Le peuple de l'amont déclara qu'en aval, toutes les tribus devenaient ses vassales. Alors on égorgea l'ennemi détesté, et puis on enferma les quelques survivants derrière les palissades d'un enclos à moutons. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça. Et alors Dieu se réveilla. Et Dieu dit: oh, c'est pas mal, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Mais on va quand même peut-être faire quelque chose ensemble. Ouais. On va quand même faire quelque chose ensemble. Tiens, nous allons cultiver des champs. Des champs de bataille. Nous allons construire des maisons. Des maisons d'arrêt en pierre à fusil. Et puis nous allons instituer des droits, tiens, des droits canons. Nous allons faire de la musique, des hymnes nationaux. Nous allons plébisciter les arts martiaux. Et puis je veux des fêtes, je veux que ce soit la fête, je veux que ce soit la fête. Alors nous allons envoyer de la poudre aux yeux. Je veux quelque chose de joyeux, je veux quelque chose de joyeux, je veux du gai, je veux du gai, je veux quelque chose de joyeux pour le premier vrai matin du monde, pour le premier vrai matin de Dieu. Je veux quelque chose de joyeux, je veux du gai, je veux du gai, je veux du gai, je veux du gai, je veux du gai. De l'islamisme, du catholicisme, du protestantisme, de l'hindouisme, du judaïsme, du libéralisme, du capitalisme, du colonialisme, de l'antisémitisme, du sionisme. Je veux du protectionnisme. Je veux du gay. Je veux du gay. Je veux du ghetto. Je veux du gay. Je veux du gay. Je veux du ghetto. Obscurantisme. Ça a commencé comme ça, oui. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et Dieu a dit: me voilà!
Eh oui, bah Dieu il dit ce qu'il veut. Moi, personnellement, je m'entends pas de grave. Hein. Mais, eh ben, on est parti pour... on détend tous de nos ancêtres.
We are.
été 1753. Au sud de ce qui est maintenant le Dakota. Il fait chaud. Il fait soif. Plus une seule goutte d'eau, ni dans les outres que porte la mule, ni dans sa gourde. Quant au whisky, il ne peut qu'en rêver. Il n'est pas tombé de pluie de plus de 4 mois, et les sources auxquelles il se ravitaille sont à sec. Il est donc descendu vers les plaines. Derrière le bois de bouleau, il aperçoit là-bas, il coule une rivière. Il épie le paysage. Pas le moindre signe de présence humaine. Pas de trace de passage dans l'herbe épaisse qui couvre la prairie. Pas de fumée suspecte. Pas le moindre bruit. Ah, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il rencontrera son premier indien. Cela ne l'empêche pas de traverser le plus vite possible la zone à découvert, tout en effaçant au maximum les traces de son passage. On ne prend jamais assez de trop de précautions. Et c'est ce que lui a appris Jeff. Ah, Jeff. Ah, que serait-il devenu s'il ne l'avait pas rencontré? Ah, mais c'est une longue histoire qu'il vaudrait mieux raconter dès le commencement. Ah bah oui, c'est toujours comme ça les histoires. Si on ne commence pas par le début, personne n'y comprend rien. Et il n'y a rien de plus agaçant qu'une histoire où on ne comprend rien. Enfin moi, en tout cas, ça m'agace. Elle a commencé en France, cette histoire, par la naissance de notre héros qui, comme on le verra, elle n'est pas notre héros. Enfin, dit comme ça, ça n'arrange pas la compréhension, bien sûr, mais il est important de s'en tenir à la vérité si on veut être un minimum objectif, hein, n'est-ce pas? On est donc en France vers 1730. Marivaux vient d'écrire Les Jeux de l'amour et du hasard. Est-ce le fruit du hasard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est incontestablement en faisant l'amour que Paul-Louis-Alexandre Villain fit un enfant à Bernadette Laporte. Il naquit un garçon que l'on prénomma Victor. Paul-Louis-Alexandre Villain, à l'avenir, je dirais plat, hein, pour être plus rapide. Paul-Alexandre Villain, plat, ouais. Bref, il n'est pas riche, mais il n'est pas pauvre non plus. Disons qu'il baignait dans une modeste aisance. Ce qui n'est déjà pas mal quand on connaît la misère du temps. Enfin, ceci permit à Victor de passer une enfance heureuse et sans histoire. Quand il eut une vingtaine d'années, son père, plat donc, l'envoya poursuivre ses études à Paris dans le but de le faire accéder à une quelconque, mais rémunératrice carrière de fonctionnaire. Plat avait quelques économies, et quand Victor eut fini ses études, il lui achèterait une charge de juge ou de fermier général, et ainsi le gamin pourra vivre tranquille sur les deniers de la nation. Hein, que rêver de mieux. Plat, personnellement, penchait plutôt pour un poste de juge. En effet, il avait quelques différends avec son voisin. Il comptait bien les régler de cette façon. si son fils devenait juge, il avait une bonne chance de réussir. Mais enfin bon, qui vivra verra, comme dit le proverbe. Et ce qu'il y a de bien avec les proverbes, c'est qu'il y en a toujours un qui correspond à la situation. Et c'est pour cette raison que Plat aimait les proverbes. Il s'en était même fait une spécialité. Ce qui nous fait une belle jambe. Enfin, toutefois, un homme averti en vaut deux, et c'est toujours ça de prix. Mais je m'aperçois que si je vous ai parlé du penchant de Plat pour les proverbes, je ne vous ai pas parlé de son aspect physique. Ah, c'était un petit Plat. Il n'était vraiment pas grand. Quand il était jeune, il était imberbe. Et maintenant, c'est un Plat à barbe. Est-ce pour ça qu'il rase son encourage avec ses proverbes ? Allez savoir. Toujours est-il que Plat attendait beaucoup de son fils. Ce fut pour lui une catastrophe quand Victor, qui, je vous le rappelle, était étudiant à Paris, décide, parce qu'il fait beau, de faire une petite promenade dans le quartier Maubert. Oh, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que ce quartier est le quartier étudiant depuis toujours. Et Victor se baladait tranquillement, le nez en l'air, quand d'un seul coup, il se retrouve pris dans un cortège de manifestants. Ah oui, des pas contents, qui râlent parce que la vie est trop chère, que les salaires sont trop bas, que les patrons suppriment des emplois ou parce que la conjoncture, quoi. Bref, le bordel habituel. Ces braves gens, dont certains sont armés de faux, de marteaux et d'autres manches de pioche, n'ont manifestement pas l'air contents. Et les voici qui décident de marcher sur Versailles. Notre Victor essaye de quitter ce cortège, mais son voisin l'attrape violemment par l'épaule et lui dit « Bah, où tu vas, toi, comme ça ?»«
Je rentre chez moi.
Hein. »« Ah non, t'es avec nous, tu viens avec nous. »
Et comme Victor n'est pas très grand, les chiens... ne font pas des chiens, aurait dit Plat. Il doit lever la tête pour croiser le regard de son interlocuteur, et ce qu'il voit dans son regard lui fait prononcer « Oh bah oui, bien sûr que je viens avec vous. »
« Oh bah c'est bien, mon gars !»
Et le grand type attrape Victor par le bras et lâche plus. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, comme aurait dit son papa, il se laisse entraîner puisqu'il ne peut pas faire autrement. Et puis, il fait beau, hein, il était sorti pour se promener, alors pourquoi pas se promener jusqu'à Versailles, hein. Enfin, c'est du moins ce qu'il se dit pour trouver une excuse à sa lâcheté. Lâcheté pourtant bien compréhensible, et tout ce monde marche d'un bon pas, ça chante, et Victor finalement trouve ça amusant. Si son voisin voulait bien lui lâcher le bras, tout serait bien. Ce qui lui fait mal, cet abruti. Mais comme il est presque aussi haut que large, Victor décide de ne pas protester. Prudence est mère de sécurité, comme aurait dit Plat. Cette phrase tourne dans sa tête et à tout hasard, il sourit à son voisin parce que si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. Alors, je sais pas si vous êtes au courant. Mais de Versailles à Paris, il y a 25 kilomètres. De Paris à Versailles, puisque c'est dans ce sens qu'ils font le trajet, Il y en a presque 32 quand on se trompe de chemin. Et, comme c'est le cas de cette foule qui, comme toutes les foules, suit bêtement le mouton de tête. Inutile de dire que quand ils arrivent enfin devant les grilles dorées du château, ils sont crevés. Victor traîne la jambe et son bras n'est plus que douleur. « Oh ben si j'avais su, j'aurais pas venu », se dit-il in petto. Au moment où Victor se fait cette réflexion, il entend les grilles du château s'ouvrir. Et vu sa taille, il ne voit rien. Mais le bruit qu'il entend est manifestement celui d'une grille mal graissée que l'on est en train d'ouvrir. La foule crie. Et au milieu du vacarme, il entend une voix mâle et autoritaire. « Chargez !» Cet ordre est immédiatement couvert par le bruit des sabots sur le pavé. La foule se pend comme la mer sous l'étrave d'un paquebot. Et bientôt, Victor, son compagnon et ceux qui étaient proches se retrouvent enturés par une troupe de mousquetaires en armes. Les soldats les entraînent derrière les grilles, cognant sans ménagement ceux qu'ils tentent de résister. Ils sont ensuite entravés et enfermés dans le poste de garde. Que va-t-il arriver, Victor ? Est-ce que vous avez compris quoi que ce soit à cette histoire ? Comment Victor est-il arrivé au Dakota ? C'est à toutes ces questions que répondra peut-être dans le second épisode de cette saga pas encore vue à la télé et que nous avons le privilège de vous faire entendre, que vous aurez peut-être la réponse. Ah, nous avons laissé Victor entravé. Enfermé dans le poste de garde du palais de Versailles. Bien sûr, nous pourrions très bien le retrouver au même endroit, mais le temps passe et la justice n'a pas que ça à faire. D'autant que le temps, c'est de l'argent et qu'à ce moment-là, le budget de la France n'est pas très brillant. Ben on se demande d'ailleurs si ce budget, enfin le budget de la France, a été brillant un jour. Mais enfin bon. En tout cas, quand nous retrouvons Victor, il est en train d'attendre le verdict du tribunal qui a été désigné pour juger les émeutiers. Il est accusé, ainsi que ses compagnons d'infortune. Ben oui. Infortune, car ni lui ni les autres n'étaient riches, de révolte, de crimes contre l'État et de quelques autres chefs d'accusation qui devaient leur valoir rien de moins que les galères, à défaut de la pendaison. Et cela n'enchante pas du tout Victor. Il n'arrive pas à comprendre ce qui lui est arrivé. Et quand il envisage son avenir sur les galères du roi, il en frémit d'avance. Peut-être à tort, car que connaît-il des galères ? Hein ? Rien ! Enfin, n'empêche, et il n'est pas fier du tout, quand il est ramené devant le tribunal. Le juge l'interroge. « Donnez-moi le nom de votre père. Ben Paul, Louis, Alexandre, Vilain, mais on dit plat. Et que fait plat? Plat tanne. Enfin, il est tanneur. Le juge sourit, car il apprécie les jeux de mots. Et c'est peut-être ce qui a permis à Victor de ne pas passer sa vie à ramer. Alors que ses compagnons entendent leur condamnation aux dites galères, lui, il bénéficie de la mansuétude du tribunal qui le condamne à la déportation dans les colonies d'Amérique. Évidemment, c'est pas le Pérou, mais entre deux mots, il faut bien choisir le moindre, comme on aurait dit plat. Et il est presque content, Victor. Il embarque à Bordeaux un jour de pluie. Là, j'aurais voulu dire il parapluie. Mais c'est un mauvais jeu de mots, j'ai renoncé. Il passe une grande partie du voyage à dégueuler triplé boyau et est bien content de débarquer encore un jour de pluie dans le port de New York. Étant donné qu'elle n'est pas encore à place, il ne peut pas voir la Statue de la Liberté, et c'est bien dommage, car il apprécie l'art mais de terre. La ville ne lui plaît pas. C'est bruyant, c'est sale et plein d'anglais. Et Victor n'aime pas les Anglais depuis le jour où il a appris qu'ils avaient brûlé Jeanne d'Arc. Et puis, il est français et les Anglais n'aiment pas les Français. Enfin bref, l'ambiance n'est pas bonne. Et heureusement pour lui, c'est là qu'il rencontre Jeff. Enfin, rappelez-vous le premier épisode, là, le début de l'histoire, quoi. Il rencontre Jeff. Peut-être auriez-vous trouvé que nous aurions pu nous appesantir un peu plus longuement sur les péripéties de l'histoire, enfin du voyage. Il y a forcément à dire plein de choses sur cette épopée. Mais c'est pas rien de traverser l'Atlantique à cette époque. Ça n'a rien été d'une balade d'agrément. Il n'y avait pas le Concorde, ni même la France, savez-vous. Il en fallait des jours et des jours de traversée. Le service laissait à désirer, la bouffe n'était pas bonne, et avec un peu de manque de chance, on tombait sur un navire bourré de pirates, tout aussi bourré, qui vous faisait la peau avant de s'approprier votre monde gousset. Mais Victor n'a rien à raconter. Il a passé le plus clair de son temps penché sur la rambarde à nourrir le banc de poissons qu'il suivait, tantôt à tribord, tantôt à bâbord, quand il changeait de plat-bord, histoire de se distraire. En fait, cela ne changeait rien, puisque d'un côté comme de l'autre, le paysage était le même, monotone et ennuyeux, ce qui lui fait prononcer ce mot qu'on a attribué plus tard à un autre, que d'eau. Enfin, quant aux pirates, ils avaient sans doute autre chose à faire. C'est donc avec regret que nous persistons à ne rien vous raconter de ce voyage. Parlons plutôt de Jeff, si vous le voulez bien. Victor s'emmerdait ferme à New York. Tous ces Anglais qui baragouinaient leur incompréhensible langage, la nourriture insipide dont ils se régalaient, tout l'agaçait. Et il n'avait qu'une hâte, retrouver un moyen de fuir ces lieux. Déjà, à cette époque, le voyage de retour, c'était pas donné, et il n'avait pas d'argent. Enfin, en tout cas, pas assez. De plus, la simple idée de devoir faire la traversée dans l'autre sens lui révulsait l'estomac. Il passait donc le plus clair de son temps à boire, pour oublier. Et c'est dans ces circonstances qu'il fait la connaissance de Jeff.
« Oh, je peux m'asseoir là ?»
Victor leva la tête. Devant lui se trouvait un immense gaillard, pas loin de 2 mètres de haut, vêtu d'un costume de peau, un bonnet de trappeur posé sur de longs cheveux, le tout puant comme 1000 purtois. Un genre de Black Lorock, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il parlait français. Et rien que pour ça, Victor était prêt à supporter l'odeur que dégageait le personnage.
« Ah oui, bien sûr, prenez place. »
L'autre s'assit, commanda un grand pichet de vin et sans plus de cérémonie se mit à boire. Quand ils eurent vidé leur verre, il le remplit de nouveau, ainsi celui que celui de Victor. Ils levèrent leur verre avec un bel ensemble et le vidèrent d'eux-mêmes. Au 4e fichet, Jeff, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prit la parole.
« Ah ben je peux savoir ce que tu fais ici. T'as pas l'air de t'amuser. »
Alors bien sûr, là, vous allez me dire que cette époque, on parlait pas de cette façon. Ah ben, je vous répondrai que je ne fais pas œuvre d'ethnologie et que je n'ai aucunement envie de me casser les pieds à faire parler mes personnages dans un jargon que plus personne ne comprend et qui rebuterait l'auditeur. Certes, ça ferait vachement culturel, mais je préfère pas faire culturel et être entendu que le contraire. Et puis, merde, c'est moi qui écris. Enfin, qui vous parle. Victor, donc, raconte à Jeff tout ce que vous venez d'entendre, et comme ça fait longtemps qu'il n'a parlé à personne, il est pris d'une sorte d'ivresse. Hein. Il faut dire aussi que les 4 pichets de vin qu'ils ont engloutis n'y est peut-être aussi un petit peu pour quelque chose. Mais, et puis, du coup, Victor, il a fabule un tantinet. Et à l'écouter, c'est lui qui menait la révolte. Hein. Il raconte comment il a poussé les autres à marcher sur Versailles. Il va même jusqu'à monter sur la table et prononcer un discours anti-royauté pas piqué des hannetons et qui a pour conséquence de déclencher une bagarre générale dont il ne serait pas sorti indemne sans son nouveau compagnon. Ah oui, celui-ci, après avoir brisé quelques tables, bancs et ustensiles divers sur les têtes des autres belligérants, finit par succomber sous le nombre et nos 2 compères se retrouvèrent le nez dans le ruisseau. Jeff se releva le premier. Il chargea Victor sur son épaule et regagna son hostellerie en chantant. Ah, c'est qu'il avait passé une excellente soirée. Bon, on va passer très vite sur le reste parce que ça n'a guère d'importance et que contrairement à Alexandre Dumas, je ne suis pas payé à la ligne. Je vous dirais quand même qu'ils restèrent encore 3 jours à New York et que pendant ces 3 jours, ils burent, mangèrent, firent connaissance et que Jeff persuada Victor de l'accompagner dans l'Ouest pour trapper. Ah ben oui, il trappait. Jeff était trappeur. Il n'eut aucun mérite à cela, compte tenu de ce que Victor pensait de New York et de ses habitants. En tout cas, ils passèrent un peu plus d'une année ensemble. Et durant ce temps, Jeff apprit à Victor tout ce qu'il savait. Faire des pièges, lire des pistes, tirer au fusil. Boire plus de 4 pichets sans être ivre à force d'entraînement. Faire un feu, construire un abri, se faire ses propres vêtements, ainsi que toute autre chose utile quand on est trappeur. Il lui apprit même qu'on pouvait mourir bêtement. En effet, Jeff disparut un jour d'hiver, ou plutôt une nuit sans lune, froide. Il avait neigé toute cette journée qu'ils avaient passé à boire. Et Jeff s'éveilla. Il était pris d'une terrible envie de pisser. Il sortit dans la nuit, s'éloigna de quelques mètres et entreprit de se soulager. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ça fait du bien. Ah, il n'y a pas grand-chose au monde qui procure une telle satisfaction. Et il était satisfait, Jeff. Il pissait. Il n'en finissait plus de pisser, mais... Et là, je vais faire une petite parenthèse un petit peu technique. Afin que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Premièrement, quand un liquide chaud est versé sur de la neige ou tout autre état de l'eau en dessous de 0 degré Celsius, ceci fond. Deuxièmement, si vous couvrez une couche de glace, autre état de l'eau en dessous de 0 degré Celsius, d'une couche de neige, et que vous versez un filet de liquide chaud à 37 degrés Celsius, par exemple, le filet de liquide chaud fait fondre la neige à son point d'impact. On dirait un trou, hein. Et ensuite, il rencontre la glace, qui, elle, ne fond pas immédiatement. Le liquide chaud se répand alors sur une large surface sous la neige sans que l'on puisse s'en apercevoir. Troisièmement, ce liquide chaud finit par faire fondre la glace si l'opération dure un certain temps. Et quatrièmement, réécoutez ce que je viens de dire et vous comprendrez ce qui s'est passé. Jeff avait tellement bu qu'il dut pisser ainsi suffisamment longtemps pour que la glace fonde jusque sous ses pieds. Un grand crac se fit entendre. Et puis, plus rien. Jeff est tombé dans une eau si froide qu'il coula immédiatement. Si ça, c'est pas mourir bêtement, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Victor venait donc de prendre sa dernière leçon. Ne pas construire une cabane près d'un lac en hiver. Il se retrouva donc seul, et c'est ainsi que nous le retrouverons dans la situation qui a fait l'objet de la première déclaration du premier épisode de ce grand feuilleton. Vous vous souvenez du début de ce premier épisode ? Ah, allez, un peu de mémoire. Où cela va-t-il nous mener ? Est-ce que vous avez déjà pissé sur la neige ? Hein ? Et puis, est-ce que vous avez tout bien compris ? Voilà, c'est ce que nous serons en écoutant le troisième épisode de notre grand feuilleton. On descend tous de nos ancêtres et peut-être à la prochaine. demander sans doute de nos ancêtres, mais pas forcément la prochaine. Or donc... Ah bah, j'aime bien cette formule, or donc... Ah putain, ça enchète, hein. ça fait culturel. Non, vous trouvez pas, vous? Donc, nous retrouvons notre héros. Ah ben, qui n'est pas notre héros, hein, comme je vous l'ai déjà dit. On le retrouve quelque part à l'ouest. Ah ben oui, toujours à l'ouest, hein. Ce bon vieux tournesol. Il revient toujours, hein, n'importe où, tournesol, Tintin, tout ça. Et notre héros, il a soif. Et il scrute le paysage qui s'offre à lui pour découvrir si une présence quelconque peut le mettre en danger. Grâce à Jeff, ah Dieu et son âme, il est capable de voir si un bison, un lapin, une marmotte, un cerf, une souris, un indien ou tout autre animal peut fouler les étendues vierges qui s'offrent à son regard. Et là, pas de doute. Rien de tout ça. La prairie est vierge de tout passage. C'est donc l'esprit serein qu'il peut s'aventurer à traverser l'espace découvert qui le sépare de la rivière où il pourra, sinon boire, parce qu'il n'applique ce terme qu'aux boissons dignes de ce nom, au moins se désaltérer. Allez, viens, Germaine. Et à ces mots, Germaine s'amule inane de plaisir. Ah ben, je sais pas très bien comment définir le son que pousse la mule qui a du plaisir, et j'ai vraiment pas le temps de chercher, mais si toutefois vous savez comment se nomme le cri de la mule heureuse, n'hésitez pas à téléphoner à Radio Larzac, parce que ça m'intéresse. Enfin, voilà. Germaine, elle, la mule, elle est contente. Elle a aussi soif, et la vue de l'eau la réjouit bien plus que son propriétaire qui, lui, préférerait de loin pousser les portes d'un saloon que marcher dans les hautes herbes pour se tremper la gueule dans les eaux boueuses. Les eaux boueuses de la Big Muddy. C'est la rivière devant laquelle il était arrivé pour étancher sa soif. Mais faute de grive, hein, comme aurait dit Plat, son père. Enfin bref, quand ils ont bu tous leurs sous, et pas tous ses sous, comme au saloon, il se construit vite fait, bien fait, un habit de branches et de fougères, puis il allume un feu en prenant soin que celui-ci ne génère aucune fumée. Car la fumée est révélatrice éventuellement de sa présence, et il s'endort paisiblement. Est-ce le brutal silence qui envahit les lieux, ou l'instinct du trappeur, ou un sixième sens, ou tout simplement le caca d'oiseau qui lui tombe sur le nez, qu'il réveilla, je ne saurais vous dire. Toujours est-il qu'il sortit de la douce torpeur du soleil. Du sommeil. Je bafouille, j'ai du trou voir moi aussi. Pas un piaillement d'oiseau. Pas le moindre souffle de vent. Pas le moindre bruissement dans les herbages ou sous les couverts. Et pourtant, il sent, il sait qu'il n'est plus seul avec Germaine, qui elle aussi montre des signes d'inquiétude. Ah, c'est étrange, cette différence entre la nature et la civilisation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si l'action se passe dans un lieu comme une maison, par exemple, C'est alors un bruit inhabituel, un grincement, une porte qui claque, un parquet qui grince, un robinet qui coule, un carreau qui se casse, un pas dans l'escalier, un bavardage, l'arrivant qui se prend les pieds dans un tapis ou le glouglou d'une bouteille, enfin un bruit qui fait démarrer l'action. Alors que si on est au fin fond des plaines du Far West, c'est exactement le contraire. Hein? C'est le silence qui inquiète. Enfin, sauf le glouglou de la bouteille, mais ça, c'est normal. Mais c'est quand même étrange, non? Enfin, pour en revenir à Victor et à Germaine, leur inquiétude naît du silence. Un silence pesant. Lourd. Lourde menace. Ah ben là, lourde menace, putain, ce que c'est conventionnel cette formule. Mais j'ai pas trouvé mieux, excusez-moi. Bref, Victor renonce à sa sieste, prend son fusil, un modèle 36 modifié 49 à poudre et à pierre, capable d'abattre un bison à 1034,5 mètres les jours de visibilité moyenne, si, si. Et, retenant son souffle, il guette le moindre bruit. Un gros plouf retentit en amont de l'endroit où il se trouve. Moitié rampant, moitié courant, et ça c'est pas facile, hein, moitié rampant, moitié courant, essayez de le faire un peu pour voir. Il se dirige vers l'origine de ce bruit, et dissimulé derrière les frondaisons, il observe les lieux. Une plume fendant les flots attire son attention. Et sous cette plume, une tête apparaît. Oh, un Indien ! Ah ben, comme vous savez, si vous avez écouté attentivement le premier épisode de ce feuilleton, Victor n'a jamais vu d'Indien. Mais il peut se douter de la chose. Si ce qu'il voit nager dans cette rivière était un anon, il y aurait plusieurs plumes. Or, il n'en voit qu'une. C'est donc un Indien. Un Indien en chair et en os. Son premier Indien. Ah, son premier réflexe est d'épauler son fusil. Et au moment où il va tirer, le sauvage pousse un cri et la plume s'enfonce sous les flots, tel le bouchon du pêcheur dont la ligne est tapée par une carpe gourmande. Comme il ne réapparaît pas au bout de 5 minutes, sans plus réfléchir, mu par un réflexe spontané, oui, un réflexe, quoi, Victor plonge. L'Indien est en train de se noyer, pas moyen d'en douter. Il est au fond, les yeux révulsés et la langue pendante, à moins que ce soit le contraire. Péniblement, Victor réussit à regagner la rive, retirant le noyé par une jambe. La tête du pauvre Indien rebondit de rocher en rocher, mais il est sauvé des eaux. Et pendant que le peau rouge se vide des litres d'eau qu'il a eu le temps d'ingurgiter, Victor reprend son souffle et se demande franchement pourquoi il est allé récupérer cet emplumé. Bah, il avait qu'à le laisser se noyer tranquillement après tout. Le voilà maintenant avec un Indien sur les bras comme il avait que ça à faire. Remarquez, il a pas l'air bien dangereux le macaque, mais quand même, on sait jamais hein, avec ces gens-là. À tout hasard, Victor garde son fusil à portée de main et surveille du coin de l'œil le cracheur d'eau. Il va rouiller, pense-t-il. L'autre continue à tousser, à cracher, à expectorer à qui mieux meurt, enfin... un vrai festival, quoi. On dirait un vieux fumeur de Havane en fin de course à deux doigts que du cancer. Un peu peu comme moi. Victor l'observe du coin de l'œil et il le trouve plutôt sympathique, cet emplumé. Et quand il fait abstraction de la plume dans les cheveux, de la quasi-nudité, des peintures sur le visage et des a priori, cet Indien ressemble à tout à chacun, finalement. Le peau rouge finit de cracher ses poumons et, timidement, il sourit à Victor. Alors, Victor fait de même. L'Indien baragouine dans son dialecte un truc que Victor ne comprend pas et à tout hasard, il lâche à son tour « Ça va mieux ?» Alors l'autre émet une série de sons du genre « Abdetraoudiawadeyawashishou » en s'asseyant face au trappeur. Mais son attitude n'est en rien agressive. Il reste assis face à face un long moment, sans rien dire. À quoi ça servirait de parler hein, quand on ne se comprend pas hein. L'Indien sourit, Victor sourit aussi, et puis de longues minutes passent ainsi. Les oiseaux ont repris leur chant, tout est calme. Et curieusement, Victor se sent bien. Il reste ainsi immobile un long moment. L'Indien semble réfléchir, puis, accompagnant son mouvement d'un geste apaisant, il se met debout. Le premier réflexe de Victor est de pointer son arme, prêt à faire feu, et à ce geste, le sauvage recule d'un pas et renouvelle son geste. Un geste pacifique. Manifestement, il ne veut pas de mal, pense Victor. Alors Victor baisse le canon de son arme. L'Indien sourit plus largement encore et s'éloignant de quelques pas, il fait geste à Victor de le suivre. Mais pourquoi Victor a-t-il sauvé ce sauvage? Et où l'Indien va-t-il mener le trappeur? Hein? Vont-ils finir par se comprendre? Et vous, avez-vous bu un coup? C'est ce que vous saurez peut-être, ou sûrement, ou je sais pas, dans le prochain épisode de notre grand feuilleton. On descend tous de nos ancêtres. Et vous? Vous descendez à la prochaine ? Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouverons Victor et cet Indien bizarre dans la suite de « On descend tous de nos ancêtres ». Pour l'instant, je vais dire un grand merci à Nico qui est derrière la vitre et qui pousse les boutons. Et à vous, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.